Merci d'écouter Inter, il est 8h. Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, un président sur un champ de ruines. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy aux côtés des sinistrés d'Irma. Sur place, des centaines de personnes patientes, parfois depuis des jours pour être évacuées. Reportage à suivre dans un instant. Emmanuel Macron qui sera donc à des milliers de kilomètres de la métropole pour le premier test social de son quinquennat. Journée de manifestation contre la réforme du code du travail. La CGT annonce 200 cortèges. Même pas peur, répond l'Élysée. Et ce matin, ce sont les forains qui jouent les invités surprises en bloquant plusieurs villes. 10 centimes de plus le litre de gazole. Le gouvernement se donne 4 ans pour aligner son prix sur celui de l'essence. Bruno Le Maire l'annonce ce matin, on verra comment le marché automobile se prépare. Elle est progressiste, il est conservateur, ils ne sont d'accord sur rien, ils ont décidé d'en faire un livre. Ils sont vos invités dans 20 minutes, Nicolas.
Deux philosophes, Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay, ils publient En terrain miné aux éditions Stock. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, de nouvelles sanctions à l'ONU contre la Corée du Nord. Hillary Clinton qui règle ses comptes dans un livre qui paraît aujourd'hui aux États-Unis. Et puis attention, un Godard peut en cacher un autre, c'est l'une des sorties ciné de la semaine. Mais d'abord, une campagne choc à destination des parents. S'il vous est arrivé un jour de vous énerver contre un de vos enfants, ça c'est à peu près le cas de tout le monde, soyons honnêtes, mais surtout d'utiliser contre eux des mots ou des expressions blessantes, deux associations d'aide à l'enfance lancent une campagne contre ces violences verbales et leurs conséquences des années plus tard quand les enfants deviennent des adultes. Il ne s'agit pas de faire la morale, mais juste de nous faire réfléchir un peu à travers plusieurs témoignages. Béatrice Duguay.
Les mots ont un sens et pas la même force pour les adultes que pour les enfants, à force de répéter « Mais c'est pas possible d'être aussi bête !» Ou alors
« Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi ?»«
T'es une moins que rien !»
La violence de ces sentences est comme un acide qui corrode la confiance en soi. Céline Kellen sait de quoi elle parle. Elle est présidente de Stop VEO, Enfance sans violence. Et elle trouve un écho personnel dans cette campagne.
J'étais une petite fille avec quelques kilos qui manquaient, on va dire. Et voilà, j'entendais de la part de mon père, dire que j'étais trop maigre et que c'était un problème pour lui. Ouais.
Parole de papa, parole d'évangile, dit-elle aujourd'hui. Céline Kellen a du coup longtemps pensé qu'elle ne plairait jamais.
C'est leur faire perdre de l'estime d'eux-mêmes, de la confiance en eux, et ça ne favorise pas les acquisitions et les relations.
Gilles Lazimi est médecin, coordinateur des campagnes contre les violences éducatives ordinaires.
Dire à un enfant « t'es nul », effectivement, il va intégrer qu'il est nul, et peut-être qu'il aura des signes somatiques parce qu'il ne sera pas valorisé, alors que ce qu'on veut en tant que parent, c'est que nos enfants deviennent des adultes formidables, bien dans leur peau, et on peut les aider. Et pour les aider, il faut utiliser les mots qui encourage et qui aide l'enfant à progresser.
Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant.
Campagne diffusée dans quelques jours à la télévision et sur les réseaux sociaux.
Voilà, cette campagne sur le poids des mots, vous pouvez la découvrir sur franceinter.fr.
8h03 des Antilles à la Floride, en passant par Cuba, l'heure est désormais à la reconstruction, Marc, après le passage d'Irma.
L'ouragan a terminé sa course hier sur les côtes américaines, mais il laisse derrière lui une quarantaine de morts, des blessés par centaines et des dégâts qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est sur des îles dévastées qu'Emmanuel Macron va poser le pied. Le président est attendu à la mi-journée à Saint-Martin, puis à Saint-Barthélemy. Il va y rencontrer les secouristes, les sinistrés. Et voici un aperçu de ce qui l'attend là-bas. Yann Gallic s'est rendu à l'aéroport de Grand Case à Saint-Martin où des centaines d'habitants tentent de quitter l'île dans des conditions plus que difficiles. Voici son reportage.
C'est un long chemin de croix pour rejoindre l'aéroport. Il faut attendre des heures, parfois toute la journée, sous un soleil de plomb. Des centaines de personnes patientent sur le bord de la route, bloquées par un barrage militaire et des véhicules blindés. Des femmes et des enfants assoiffés sont assis sur leurs valises sous un parapluie ou une serviette pour se protéger de la chaleur, avec seulement quelques bouteilles d'eau distribuées par les gendarmes.
Moi j'ai 66 ans, ça fait 6h30 que je suis debout. On était tamponné avec un numéro après 3 heures de queue. Maintenant il faut attendre par numéro. J'ai l'impression de vivre dans un pays sous-développé. On n'a pas dormi depuis 4 nuits. Moi j'ai un moral qui est d'acier, ok, mais j'ai un physique qui ne va pas suivre à 66 ans. Si maintenant on ne m'évacue pas, moi je suis prête à tomber par terre.
Les personnes que je vais appeler, avance vers moi.
Rien, on est comme des cons de singes là. On nous donne des bananes et de l'eau. On n'a même pas une tente pour s'abriter. Où est la Croix-Rouge? Il n'y a personne. Alors il faut arrêter de nous raconter des histoires. Et la vraie réalité du terrain, c'est que c'est organisé comme de la merde. Ça, c'est la réalité. On a un point aérien. Depuis quand il n'y a pas eu d'avion depuis tout à l'heure? Où est le point aérien? Un point aérien, un vrai point aérien, c'est un avion toutes les 20 minutes. On est quoi? On est des relégués de la société, on est relégués de la République.
L'évacuation des sinistrés se fait dans la plus grande confusion. Une fois ce premier barrage franchi, ils devront encore attendre devant les grilles de l'aéroport avant de pouvoir monter dans un avion et de mettre fin à leur calvaire. À Saint-Martin, Arthur Gerbeau, Yann Gallic, France Inter.
À Saint-Martin, où le retour de l'eau courante n'est pas prévu avant 3 mois, pas de rentrée scolaire avant le mois de novembre, quasiment toutes les écoles sont détruites et le secteur touristique est à terre, littéralement. En temps normal, il fait vivre 80% de la population. Mais cette année, ce sera sans doute une année blanche, Philippe Lefebvre.
Une décision résume ce matin la position de l'ensemble des tour opérateurs. Elle a été prise par la plus grande entreprise française du secteur qui a donc décidé de ne plus vendre de séjours pour Saint-Martin et Saint-Barth au moins jusqu'à fin décembre. Décision logique pour Georges Cisneros, c'est le PDG d'Exotisme, un tour opérateur spécialisé, qui n'imagine même pas que la haute saison touristique, qui débutera en théorie fin novembre, puisse être sauvée.
Clairement non, parce que il n'y a pas que le problème des hôtels en tant que tel. Il y a le problème des routes, il y a le problème du réseau électrique, des eaux, etc. Il y a un tel chantier aujourd'hui, ça va être assez compliqué quand même pour être d'aplomb au mois de décembre. Ça sera pas une destination dans un premier temps pour les touristes, parce qu'il va y avoir un grand chantier de reconstruction et il va falloir se relever les manches et tout remettre d'aplomb.
Et les pertes devraient être colossales pour les professionnels du tourisme, dont les établissements, hôtels, restaurants et clubs ont été détruits. Ils vont devoir investir pour les reconstruire sans être certains que les touristes soient de nouveau au rendez-vous dans les prochaines années. Car désormais, Saint-Barth et Saint-Martin n'ont plus l'image de petits paradis, mais bien d'enfers tropicaux. Et d'ores et déjà, les touristes qui devaient s'y rendre dans les prochains mois retournent dans les agences de voyage pour choisir d'autres destinations.
Enfin, conséquence notamment des intempéries sur les puits de pétrole américains, le cours du brut s'est envolé ces derniers jours. Et avec lui, le prix des carburants à la pompe. En une semaine, le sans-plomb et le gazole ont augmenté d'environ 3 centimes par litre en France. Et ce n'est sans doute pas fini, en tout cas pour tous ceux qui roulent au gazole. Bonjour Hélène Filly.
Bonjour.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'annonce ce matin dans une interview aux Échos. Il veut alourdir la fiscalité sur le gazole pour l'aligner en 4 ans sur l'essence. Alors vous avez sorti la calculette.
Et le calcul est rapide, hein. 2,6 centimes de plus le litre par an pendant 4 ans. Ça fait quand même plus de 10 centimes d'augmentation. Ça ne concerne pas les agriculteurs, les transporteurs, les pêcheurs, mais pour les autres, le calendrier est précis, l'annonce chiffrée, et ça s'ajoute, il ne faut pas l'oublier, à la taxe carbone. Là, c'est l'UFIP qui a sorti la calculatrice. L'Union française des industries pétrolières estime qu'une hausse de 7,50 euros la tonne de CO2 entraîne une augmentation de 2 centimes par litre pour le gazole. On est à plus de 30 euros la tonne cette année, ça ferait donc 8 centimes. La fiscalité verte va vraiment se sentir à la pompe.
Est-ce que ça peut bousculer le marché automobile ?
Eh bien, le marché est déjà en pleine mutation. La chute des ventes de diesel est vertigineuse depuis 5 ans, moins d'une vente sur deux ces 8 derniers mois. Le comité des constructeurs français n'est pas surpris ce matin par cette annonce. Au contraire, elle accompagne, dit-on, un processus déjà bien entamé. Les lignes de montage moteur essence tournent à plein régime et les géants de l'automobile investissent maintenant des milliards dans l'électrique. Dernier exemple hier, l'allemand Volkswagen annonçait 20 milliards d'euros d'investissement pour pouvoir proposer une variante hybride ou électrique de tous ses modèles d'ici à 2030.
Merci Hélène Filly.
8h08 après les ordonnances, le thermomètre.
Difficile de dire qui joue le plus gros aujourd'hui avec cette première journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail. Est-ce la CGT qui a pris la tête de la contestation ou le gouvernement qui affronte son premier test social? Côté chiffres, on scrutera bien sûr la mobilisation dans les 200 cortèges du jour. Christophe Vincent, lui, est allé prendre la température à Lyon, aux côtés des militants de la CGT, en pleine distribution de tracts, pas toujours facile de se faire entendre.
Contre la loi travail.
Je ne suis pas prête de travailler encore, je suis désolée. Hein.
Ouais, mais un jour, vous allez
oui,
travailler.
Oui, un jour, mais dans très
le
longtemps.
Le code du travail, ça va vous intéresser. Ouais.
Devant l'hôpital Édouard Herriot, les militants CGT tentent de convaincre d'aller manifester Mathieu Bercamerle.
Pour nous, c'est clair et net que c'est le bon moment. Là, c'est le code du travail. Bientôt, il va y avoir la réforme des retraites. Bientôt, il va y avoir la réforme du chômage. Tout le monde va y passer.
Des étudiants, des retraités approuvent sans forcément se mobiliser.
Nos ancêtres, ils sont battus pour qu'on ait les meilleures conditions de travail. J'aimerais pas que ça change.
Je me sens concerné, mais je compte peut-être m'y rendre.
Il faut réagir, hein, parce que là, ça va plus, quoi.
Ni manif, parce que j'ai pas le temps et puis pas l'envie. C'est égoïste, mais je soutiens.
D'autres supportent mal ce front anti-Macron 4 mois après son élection.
C'est une bonne chose. La réforme et tout, c'est très bien.
Il faut être un peu plus patient, c'est tout.
Lui laisser sa chance.
Je suis à un âge où on fait plus de manif, mais je pense qu'il faut absolument le laisser essayer.
On sait qu'il faut réformer, donc il faut le faire.
Mais c'est pas en faisant tout le temps la gueule qu'on y arrivera de toute façon. Donc la CGT...
Non, à la Caisse du Code du Travail.
Ah, mais nous, on travaille pas, nous.
Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et si les manifestants du jour cherchaient des slogans, Emmanuel Macron leur en a sans doute offert un sur un plateau, avec sa désormais célèbre phrase sur les fainéants, les cyniques et les extrêmes auxquels il promet de ne rien céder. Propos qu'il ne regrette pas, a-t-il dit hier. C'est donc à 7000 km de la métropole qu'il comptera aujourd'hui les manifestants. Signe qu'à l'Elysée, Frédéric Mettezo, on est, semble-t-il, pas trop inquiet.
Lors des manifestations contre la loi El Khomri, Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Édouard Philippe, maire du Havre, qui avait vu des militants CGT bloquer le port et des dépôts d'essence, et l'actuel conseiller social de l'Elysée dirigeait le cabinet de Myriam El Khomri. Alors, aujourd'hui, on a la sérénité des vieilles troupes. Tout cela fait partie de la vie démocratique, explique la présidence. Mais notre détermination est forte, on ne refera pas le match. À Matignon, on affirme que tout a été dit avant les législatives. Les Français nous ont élus en connaissance de cause. Il n'y a pas de crispation démocratique. Traduction, contrairement à la loi El Khomri qui n'avait pas été annoncée et qui avait été adoptée au 49-3. Pour l'exécutif, l'opposition de la CGT est idéologique. La majorité des syndicats sont réformistes. Et puis l'Élysée rappelle qu'il ne s'agit pas de négociations du style « j'en garde sous le pied en fonction de la mobilisation ». Les opposants pourront donc défiler. Le calendrier reste le même. Ordonnance en Conseil des ministres dans 11 jours, puis nouvelle concertation sur l'assurance chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage pour une loi au printemps.
Et au total, 4000 préavis de grève ont été déposés pour aujourd'hui dans les transports, l'énergie, la santé. Des grèves sont également prévues à l'école, dans les crèches, dans les cantines. Enfin, les forains se joignent au mouvement avec des barrages filtrants ce matin sur l'A6 au sud de Paris. Des blocages également signalés à Lyon, à Strasbourg, à Épernay, à l'appel de l'auto-proclamé roi des forains, Marcel Campion. Lui, ce ne sont pas les ordonnances Macron qu'il a en travers de la gorge, mais une autre ordonnance publiée en avril dernier, sous l'ancien gouvernement donc, et qui impose aux municipalités de lancer des appels d'offres avant d'accueillir des animations. Ce serait, dit-il, la fin de notre métier.
8h12, l'arme économique face à l'arme atomique.
On s'y attendait, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté cette nuit de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Après son dernier essai nucléaire, un vote à l'unanimité, la résolution interdit au régime d'exporter son textile. Elle réduit son approvisionnement en gaz et en pétrole. Les États-Unis ont dû édulcorer le texte pour obtenir le soutien de la Russie et de la Chine. Plus question, par exemple, de geler les avoirs du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Visiblement, la claque n'est pas digérée aux États-Unis. 10 mois après sa défaite surprise, Hillary Clinton a choisi de raconter sa campagne de l'intérieur dans un livre qui paraît aujourd'hui. Le FBI, Bernie Sanders, les médias, elle y règle ses comptes et donne les raisons pour lesquelles elle estime avoir perdu. Philippe Randé.
Entre thérapie, autocritique et opération de communication, Hillary Clinton revient longuement sur le soir de sa défaite. Dans une interview diffusée par CBS, groupe propriétaire de son éditeur, elle le dit « Je n'arrivais pas à réfléchir, j'étais juste assommé. »
Je n'avais pas préparé de discours de défaite. J'avais travaillé sur un discours de victoire. J'ai eu l'impression d'avoir laissé tomber tout le monde. Beaucoup de gens ne voulaient pas entendre parler de mes plans. Ils voulaient que je partage leur colère et j'aurais dû m'y prendre bien mieux pour leur montrer que je les comprenais.
Et l'ancienne candidate démocrate d'expliquer que le yoga, les promenades en forêt et quelques verres de chardonnay lui ont permis de tenir le coup. Mais la gueule de bois est toujours là. Donald Trump est dépeint comme un personnage brutal et grossier qui a transformé l'élection en émission de télé-réalité. Quant à son propre camp, Hillary Clinton n'hésite pas à taper fort au risque d'embarrasser les démocrates qui tentent d'oublier 2016 pour se rassembler et avancer. Elle critique notamment son ancien rival des primaires, Bernie Sanders, à qui elle reproche de lui avoir emprunté ses idées. Hillary Clinton qui s'est montrée catégorique, j'en ai fini d'être candidate. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va disparaître du paysage médiatique. Elle a prévu de parcourir les États-Unis pour promouvoir son livre. Une véritable tournée d'adieu avec des conférences payantes dont les billets s'arrachent. Washington, Philippe Randé, France Inter.
En bref, un petit pas de plus vers le Brexit. Nouvelle étape franchie cette nuit. Le Parlement britannique a voté le projet de loi destiné à abroger le droit européen au Royaume-Uni. L'Europe du foot, elle, se retrouve à partir de ce soir. C'est le retour de la Ligue des Champions. Le PSG va pouvoir étraîner son effectif de stars sur la scène européenne avec un déplacement sur la pelouse du Celtic Glasgow à 20h45. À suivre également le premier vrai choc de la saison entre le Barça et la Juventus de Turin.
Et enfin, Godard, revu et corrigé.
Quand le cinéma s'attaque à l'un de ses maîtres, son prochain film ne sortira que l'an prochain. Mais demain, c'est sous les traits de Louis Garrel que Jean-Luc Godard revient au cinéma dans un film signé de Michel Avanavicius, Le Redoutable, hommage irrévérencieux à l'homme de la nouvelle vague. Corinne Pellissier.
C'est un portrait gentiment moqueur qui retrace en 9 chapitres l'histoire du couple que Jean-Luc Godard a formé avec Anne Wiazemski à la fin des années 60. La France en grève, les mouvements étudiants et l'échec du film La Chinoise qui a plongé à l'époque le cinéaste dans une crise existentielle abordée ici de manière décalée et avec beaucoup de fantaisie.
Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je la méprise.
L'interprétation de Louis Garrel y est pour beaucoup. Un humour peint sans rire et un sens de la réplique plus vrai que nature, transformant le cinéaste en véritable personnage de bande dessinée, égocentrique, odieux, maladroit, mais touchant. Une sorte de Gaston Lagaffe à la sauce OSS 117.
J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Il était sur le point de se révolutionner lui-même.
Personne, c'est sûr, n'avait osé jusqu'à présent s'attaquer à une figure aussi respectée du cinéma français, tout en pastichant son style. Un grand détournement comique, plus qu'un biopic sur les années maoïstes du réalisateur. Un film inspiré du roman d'Anne Wiazemski un an après. Une histoire à l'origine un peu triste sur le délitement d'un couple et la difficulté à exister dans les pas d'un personnage aussi fort.
Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard.
Monsieur et Madame Nous ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion.
Marion Nous ?
Oui, mon amour. Marions-nous.
Voilà, Godard en quasi Gaston Lagaffe, il fallait oser. Le redoutable, c'est demain au cinéma.
Merci Marc Fauvel, 8h16, la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Marie-Pierre Planchon, matinée assez instable.
Oui, car on est toujours sous l'influence d'une dépression sur les îles britanniques et qui vont donner des averses orageuses sur la Normandie, de la Picardie à l'Alsace jusqu'aux Alpes avec de la neige dès 1800 mètres. Alors ce matin, du sud-ouest à l'Auvergne, beaucoup de grisailles et des ondées. Votre matinée sera plus ensoleillée de la Bretagne au centre, à l'île de France comme autour de la Méditerranée. Mais du vent très fort ce matin, des rafales à 130 km/h. Et en journée, les rafales ne devraient plus dépasser les 100 km/h. La Tramontane et le Mistral, pas plus de 70.
Amélioration cet après-midi, mais temporaire. Uniquement.
Oui. Du Cotentin, en descendant sur les Pyrénées, vous aurez de belles éclaircies, mais en fin de journée, nouvelle dégradation va pointer le bout de son nez sur le Finistère. À surveiller, car cette perturbation va porter dans la nuit et demain de fortes pluies et du vent. Toujours de la fraîcheur, on sera encore 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison. 15 à Rodez, pas plus de 16 à Belfort, 17 à Nancy, pas plus de 18 à Paris, 19 à Rennes et à Châtillon sur Loire. On va passer les 20 à Tarbes et à Lyon, mais douceur méditerranéenne. Encore 25 de Nice à Argelès-sur-Mer.
Merci Marie-Pierre.